Les pneus étaient les mêmes, ainsi que le groupe sanguin. Nous disposions des reçus de carburant. À cette étape-ci, selon le procureur de l'État, nous en avions assez pour obtenir un mandat nous autorisant à fouiller le camion du suspect et peut-être même avoir des échantillons de son sang et de ses cheveux pour comparer son code génétique.
On retrouve le corps d'une jeune fille dans la neige au bord d'une autoroute. Cette adolescente aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Elle a subi des tortures qu'aucun être humain ne devrait jamais connaître au cours de sa vie. Puis finalement, elle s'est retrouvée dans une petite ville de Pennsylvanie où personne ne la connaissait. Si seulement elle avait été encore en vie, elle aurait vu à quel point des gens tenaient assez à elle pour veiller à ce qu'on lui rende justice. Le 24 mars 1993, à Bellefonte, en Pennsylvanie, une tempête de neige tardive repoussa l'arrivée du printemps. Un automobiliste se rendait au travail sur une route bordée de neige. Quelque chose au bord de la route capta son attention. Il fit une découverte macabre, le genre de découverte plutôt rare dans cette région paisible. On dépêcha immédiatement des agents de la police d'État sur les lieux. Le corps d'une jeune femme avait été abandonné dans la neige près du croisement de deux autoroutes. Le coroner du comté détermina que la jeune fille était déjà morte lorsqu'on avait abandonné son corps. Elle ne portait qu'un chandail, un slip et des chaussettes. Elle était adolescente, de l'âge d'une jeune fille du secondaire ou du collège. Mais ce qu'il y avait de plus troublant, c'est qu'elle avait une corde enroulée autour du cou. On lui avait également ligoté les mains. Le procureur Ray Gricar se trouvait sur la scène du crime. La nouvelle de cette découverte l'avait atterré.
Ce qui m'a frappé, c'est que non seulement un individu avait assassiné cette jeune femme, mais qu'en plus il avait traité son corps avec un réel manque de respect. Il gisait tout de travers sur le tas de neige, comme s'il avait été jeté là par hasard. Un peu comme on l'aurait fait avec un sac de détritus le long de la route. Un spectacle comme ça, cela nous met très en colère.
On recueillit le corps en vue d'une autopsie. Bientôt, la nouvelle du meurtre se propagea dans la population de 7000 habitants de Bellefonte. C'était le premier homicide en 13 ans. Comme le procureur Ray Gricar, la population était révoltée et en état de choc. L'agent du FBI, Randy Coick, vivait lui aussi à Bellefonte. Il se préoccupa de cette affaire bien avant que le FBI ne s'implique dans l'enquête.
On appelle ce secteur la vallée du bonheur. C'est l'endroit idéal pour élever des enfants. Cela fait 12 ans que je vis ici. Ce genre de crime n'arrive jamais. Le fait qu'on y ait jeté le corps de cette jeune fille a profondément troublé les gens de la région. Ils craignaient aussi que le meurtrier ne se trouve parmi eux.
Les détectives se mirent à la recherche d'indices pour identifier la victime. Ils ne trouvèrent ni sac à main ni porte-monnaie. Il n'y avait presque rien.
Je me rappelle avoir dit au détective Madden ce matin-là qu'il serait très chanceux s'il finissait par identifier la jeune fille. Et encore bien davantage s'il pouvait retrouver le meurtrier.
Le détective Madden de la police d'État de Pennsylvanie dirigeait cette enquête.
Il y avait comme un creux dans la neige d'environ 15 cm à l'endroit où le corps avait été abandonné. Il semblait avoir été jeté d'un camion sur l'accotement enneigé.
Madden en déduisit que le véhicule était un camion dont la cabine était assez élevée du sol. Les traces de pneus qu'il remarqua ensuite confirmèrent son hypothèse. Elles étaient doubles et avaient sans doute été laissées par les roues arrière d'un semi-remorque. Un technicien effectua des moulages de l'empreinte de pneus qu'il envoya ensuite au laboratoire judiciaire de la police de Pennsylvanie. Les experts tenteraient ensuite d'identifier la marque des pneus et de trouver des caractéristiques uniques. Si la police trouvait un suspect et que les pneus de son véhicule correspondaient aux marques, on pourrait ainsi établir un lien entre lui et la scène du crime. Les agents se dispersèrent pour trouver d'autres indices. Ils ratissèrent les champs qui se trouvaient à proximité, ainsi que le terrain de l'Université de Pennsylvanie. Malheureusement, leurs recherches furent vaines. Le corps de la jeune fille fut envoyé à l'hôpital Lehigh à Bethléem, où le coroner Malakis l'autopsia sous la supervision du détective Madden. Le médecin légiste établit qu'il s'agissait d'une mort par strangulation. Il n'y avait aucune blessure de projectile, ni de plaie produite par des armes blanches. La température intérieure du corps de la victime lui permit de conclure qu'elle était morte moins de 12 heures avant sa découverte. Elle était donc vraisemblablement décédée depuis un moment, lorsqu'on l'avait abandonnée au bord de la route. On constata également qu'elle avait eu une relation sexuelle avant de mourir.
À ce moment-là, nous ignorions si elle avait été violée ou pas. Toutefois, en nous basant sur les circonstances entourant sa mort, nous étions enclins à croire qu'elle l'avait été.
Avec précaution, Malakis retira la corde autour du cou de la jeune femme. Sous le nœud, il trouva un cheveu noir qui ne provenait pas de la victime puisqu'elle était blonde. Peut-être provenait-il du meurtrier. On envoya le cheveu et la corde au laboratoire judiciaire du FBI à Washington pour analyse. Le type de nœud pouvait fournir des informations importantes. Il permettrait peut-être au FBI de dresser un profil du meurtrier. L'indice le plus prometteur se trouvait cependant dans la main gauche de la victime. Il semblait y avoir quelque chose d'écrit à l'intérieur de sa main.
Il y avait des chiffres à moitié effacés sur la paume de sa main gauche. Ils avaient été écrits avec de l'encre et semblaient être là depuis un bon bout de temps, car ils étaient pâles et à peine lisibles. Bill et moi-même croyons qu'ils nous aideraient peut-être à découvrir l'identité de la jeune fille.
L'écriture était indéchiffrable. Cela ressemblait cependant à des chiffres. L'agent Coic demanda à des experts du laboratoire du FBI d'améliorer la définition de l'écriture.
Nous avons cru qu'on pourrait peut-être rendre les chiffres plus nets au laboratoire du FBI à Washington. Nous avons donc prélevé la peau de la main gauche et nous l'avons envoyée au laboratoire judiciaire du FBI.
On prit les empreintes digitales de la victime afin de les comparer à celles des personnes disparues. Mais les recherches ne donnèrent rien de concluant.
Nous avons inséré ces empreintes dans le système EFIS, qui est, en fait, le système national d'empreintes digitales. Mais les résultats étaient négatifs. Nous avons également effectué des vérifications à l'aide des caractéristiques physiques de la victime, mais nous n'avons pas eu plus de chance. La victime ne correspondait à aucune des personnes disparues.
Par la suite, un dentiste prit des radios de la dentition de la jeune fille. Ces radios pouvaient s'avérer cruciales pour l'identifier. Dès qu'on disposerait d'un nom, on pourrait comparer les radios à celles de son dossier dentaire et vérifier s'il s'agissait bien d'elle. Mais d'abord, on devait tenter de la faire identifier par quelqu'un qui l'avait connue de son vivant. Lui rendre son apparence d'origine risquait d'être difficile après l'autopsie. Il fallait d'abord fermer les incisions pratiquées lors des radiographies et cacher les contusions. Cela demanderait plusieurs heures de travail. Pour lui redonner son apparence normale, on fit appel à un embaumeur qualifié, Stephen Mondock.
En recevant son corps, nous avons constaté qu'elle avait traversé une rude épreuve. Il fallait d'abord la maquiller et la coiffer. Nous l'avons vêtue de façon à lui rendre son apparence originale. Ensuite, nous avons pris des photos qui ont été publiées dans les journaux.
Grâce à ces photos, on avait une meilleure idée de ce que la victime avait l'air de son vivant. Mais Mondock lui donna plus qu'un visage, il lui donna aussi un nom.
Quand le coroner nous l'a emmené, il nous a dit qu'il avait une gêne une telle. Je dis, « Kerry, je n'aime pas appeler les victimes une telle. Je trouve ça terriblement impersonnel. » Il m'a demandé comment je comptais l'appeler. J'ai alors vérifié si nous l'avions bien trouvé dans la région de Spring Township. Kerry m'a dit que oui. Je me suis aussi rappelé que c'était l'aube au moment de sa découverte. J'ai donc décidé de l'appeler Springdown.
Le travail acharné de Mondock fournit au détective un point de départ. Ils montrèrent la photo de la jeune femme à des dizaines de camionneurs dans des restoroutes, des relais et des stations d'essence. Son jeune visage semblait familier à de nombreux camionneurs. Malheureusement, les policiers n'obtinrent pas de piste. Des avis publiés dans les journaux locaux et des feuilles distribuées parmi la population fournirent également des pistes, mais chacune d'elles se terminait dans une impasse. Vers la fin avril, soit environ un mois après la découverte du corps d'une jeune femme en Pennsylvanie, le laboratoire judiciaire du FBI se mit en contact avec le détective Madden. Les experts qui avaient analysé l'écriture sur la paume de sa main gauche croyaient que les chiffres étaient en fait un numéro de téléphone de Floride. Madden découvrit par la suite que cette ligne de téléphone avait été débranchée. Il se demanda alors si les experts n'avaient pas fait erreur dans leur lecture du code régional.
Ça ne semblait pas être une piste prometteuse. La victime avait le teint pâle. Elle semblait plutôt provenir d'une région tempérée, c'est-à-dire un secteur semblable à celui où nous habitons. Mais quel secteur? C'était la question que nous nous posions.
Madden était portée à croire qu'elle venait du nord ou de l'ouest de la Pennsylvanie, sans doute dans un rayon de 12 heures de route de l'endroit où son corps avait été trouvé. Le détective s'aperçut alors qu'il y avait non pas un numéro de téléphone dans la main de la jeune fille, mais bien deux. Il nota ensuite toutes les villes se trouvant dans un rayon de 12 heures, dont les premiers chiffres correspondaient à ceux qu'elle avait notés dans le creux de sa main. Madden et Coick envoyèrent ensuite les séries de chiffres, les photos et la description de la jeune femme aux services de police de ces secteurs et des États dont ils faisaient partie. Le printemps arriva à Bellefonte et la jeune fille demeura présente dans les pensées des citoyens. Son histoire les touchait, en particulier Madden et Coick. Ses collègues et amis de longue date ne pouvaient pas s'empêcher de penser à sa mort tragique. Ils s'acharnèrent sur cette enquête, travaillant même en surtemps pour tenter de la résoudre.
Au moment où j'ai été assigné à cette enquête, ma propre fille avait 17 ans. Le détective Madden était de son côté père de deux adolescentes. Nous sommes donc tous deux intéressés personnellement à cette enquête. En fait, cela prenait presque tout notre temps. Souvent, nous discutions de l'affaire même le soir au téléphone à partir de chez nous.
Lorsque Stephen Mondock prépara le corps pour l'enterrement, le soutien de la population fut encore plus grand.
Des fleuristes nous ont donné des fleurs et des coiffeurs ont appelé pour offrir de la coiffée. D'autres gens voulaient donner des vêtements. Des pasteurs nous ont offert d'officier la cérémonie. J'ai eu des appels d'entreprises de cercueils et de caveaux. Le cimetière où elle devait être enterrée était un site magnifique au pied d'une montagne, où poussent des fleurs sauvages. La pierre tombale nous a été donnée. La participation massive de la population nous a étonnés.
Plus d'un mois après la découverte du corps de la victime, il était maintenant temps de l'enterrer. Non seulement la population voulait mettre cette tragédie derrière elle, mais de plus le corps ne pouvait plus être conservé très longtemps. Mais Madden avait encore besoin d'un peu de temps.
La dernière chose que notre service de police désirait était de laisser aller ce corps. En d'autres mots, nous refusions de le laisser enterrer avant d'avoir identifié la victime.
L'enquête eut alors un coup de chance. Un des policiers du bureau du shérif du Maine avait reçu l'information à propos de la jeune femme. Il était incapable de reconnaître le visage, mais il avait appelé à l'un des numéros écrits sur la paume de sa main sans rien savoir de la personne qui lui répondrait. Il parla à un certain Mark Rosenberg, un orienteur pédagogique dans une école de la région. Cela semblait prometteur, compte tenu de l'âge de la victime. Un détective rendit visite à Rosenberg. Lorsque le détective lui montra la photo de la jeune fille, il la reconnut immédiatement. Son nom avait déjà une sonorité familière. Elle s'appelait Dawn. Dawn Marie Birnbaum. Stephen Mundock lui avait trouvé le nom de Spring Dawn. La coïncidence était troublante.
J'étais en état de choc, abasourdi même. C'était un hasard si étrange, mais tout tombait pile. Après tout, la victime faisait maintenant partie de la population.
Dawn fréquentait une école pour jeunes en difficulté. Elle rejetait toute forme d'autorité depuis le divorce de ses parents. En Indiana, où sa mère vivait encore, elle avait vécu dans des dizaines de foyers d'où elle fuguait la plupart du temps. Mais à cette école spécialisée, elle avait enfin trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, son orienteur, M. Rosenberg.
Au cours de la conversation téléphonique entre M. Rosenberg et Dawn, la standardiste interrompait la conversation sans arrêt pour dire à Dawn d'insérer de nouvelles pièces de monnaie. Comme le minutage autorisé approchait de sa limite, Rosenberg a demandé à Dawn de le rappeler pour lui dire qu'elle était en sécurité. Elle lui a promis de le faire. Il lui a alors donné son numéro de téléphone privé qu'elle a noté sur la paume de sa main. Elle voulait le rappeler, mais elle n'en a pas eu la chance.
L'école fit parvenir le dossier dentaire de Dawn à la police de Pennsylvanie, où les dentistes judiciaires comparèrent les radios à celles prises à la morgue. Les résultats furent positifs. C'était un point tournant de l'enquête.
Le FBI a alors classé l'affaire dans la catégorie des enquêtes d'enlèvement. Cette jeune fille, trouvée au cœur de la Pennsylvanie sur un banc de neige, se trouvait dans l'État du Maine quelques jours plus tôt. C'était donc une enquête qui impliquait plusieurs États.
Les enquêteurs ciblèrent le Maine, où Dawn avait été vue pour la dernière fois en vie. Des agents de la police d'État du Maine interrogèrent les amis de Dawn, notamment Heidi Hansen. Heidi leur apprit que l'année précédente, Dawn avait voyagé en stop avec un camionneur et qu'elle était partie de nouveau avec l'intention de le rejoindre. L'année précédente, Dawn et Mandy Gray, une autre de ses amies, avait fait une fugue avec un camionneur du nom de John Hoffpower. Ils avaient déposé Mandy chez elle, en Géorgie, et poursuivi leur route. Dawn et le camionneur étaient alors tombés amoureux l'un de l'autre. Au fil des semaines, leur relation se développa. Hoffpower avait même emmené Dawn chez lui pour la présenter à sa grand-mère. Ils avaient continué de voyager ensemble un peu partout selon les itinéraires de travail de Hoffpower. Personne ne savait exactement où ils étaient allés ou ce qu'ils avaient pu faire, mais Dawn parlait toujours affectueusement de Hoffpower. Ils aimaient être ensemble et Hoffpower la traitait avec respect. Cela semblait même être l'un des rares moments de bonheur de Dawn. Puis, environ un mois après sa fugue, la police fit arrêter le camion de Hoffpower lors d'une vérification de routine. L'agent demanda à Dawn de descendre. Elle obtempéra. En introduisant son numéro de permis dans la base de données, l'agent obtint un avis de personne disparue qui provenait de son école. L'agent demanda à Don de l'accompagner, mais quand il tenta de la séparer de Hoffpower, elle le supplia de laisser tomber. L'agent refusa. Il la ramena à son école. Depuis cet épisode, son comportement était redevenu normal. Elle devait obtenir son diplôme quelques mois plus tard. Mais son destin en déciderait autrement. Il semblait bien qu'Hoffpower était toujours amoureux d'elle, et peut-être même elle aussi de lui. Elle ne l'avait pas revu depuis leur escapade, mais il avait tenté à maintes reprises de lui rendre visite à l'école. Chaque fois, les gardiens de sécurité lui en refusaient l'accès. Don n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un bon moment. Elle confia à ses amis qu'elle avait l'intention de retrouver Hoffpower et de reprendre la route avec lui. Au cours de la soirée du dimanche 21 mars, soit 3 jours avant qu'on la retrouve morte, Don sortit furtivement d'un cinéma. Elle dit à son amie Heidi qu'elle comptait se rendre jusqu'au relais de camionneurs de Dysart à Bangor, dans le Maine, où elle espérait rencontrer Hoffpower. Hoffpower était maintenant le suspect principal puisque la victime devait le rencontrer. L'agent Coic tenta de le retracer. Apparemment, il vivait au Mississippi. Mais il ne le retrouva pas. Sa parente la plus proche était sa grand-mère. Elle vivait à Emory, au Mississippi. Elle accueillit les policiers chez elle. Elle avait élevé Hoffpower comme si c'était son propre fils. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Peu importe où ils se trouvaient, ils l'appelaient presque tous les jours. Ils lui avaient même présenté Dawn. Les agents informèrent alors la vieille dame de la mort violente de Dawn. Elle fut terrassée par la nouvelle. Puis elle leur dit qu'elle avait une nouvelle tragique à leur annoncer elle aussi. Depuis septembre, c'est-à-dire 7 mois avant le meurtre de Dawn, son petit-fils avait cessé de l'appeler. Il ne travaillait plus sur la route et ne prenait pas soin de ses animaux domestiques non plus. Il avait laissé son porte-monnaie chez elle avant de disparaître. Elle était convaincue qu'il était mort, même si on n'avait jamais retrouvé son corps.
On avait retrouvé sa voiture criblée de balles. Nous avions de bonnes raisons de croire qu'il s'était retrouvé en travers de la route d'individus violents et qu'on l'avait tué.
Les agents apprirent que sa voiture avait été trouvée en septembre 1992, à quelques kilomètres seulement de sa maison au Mississippi, 7 mois avant la mort de Dawn. Par un étrange hasard, la disparition de Hoffpower avait conduit à la mort de Dawn. Si Hoffpower s'était trouvé au relais de Dysart, Dawn serait encore en vie. Leur liaison semblait marquée par le destin et elle se termina par une double tragédie. Dans l'affaire entourant le meurtre de Dawn Murray Birnbaum, la piste la plus prometteuse des enquêteurs s'était révélée être une impasse. Encore une fois, ils se retrouvaient sans suspect. Suite à une information donnée par une amie de Dawn, l'agent Coic et le détective Madden se rendirent au relais de camionneurs de Dysart, où Dawn prévoyait se rendre. Ils montrèrent sa photo à la caissière qui se rappela l'avoir aperçue en train de téléphoner quelques semaines plus tôt. De toute évidence, c'était de cet endroit que Dawn avait effectué ses derniers appels.
Le guichet de la caissière où les camionneurs réglaient leurs notes de carburant n'était qu'à 5 mètres des téléphones publics d'où Dawn téléphonait chez elle et à son école. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'elle ait effectivement pu rencontrer un camionneur à cet endroit.
L'agent Coic obtint un mandat d'un grand jury fédéral pour qu'on lui remette les relevés téléphoniques. Les gens que Dawn avait appelés sauraient peut-être où elle prévoyait aller et avec qui elle était partie. Les relevés indiquaient que Dawn avait appelé son orienteur pédagogique, Mark Rosenberg. On constata également qu'elle avait appelé d'autres amis. Son dernier appel semblait être celui fait à Mandy Gray à 10h du matin. Mandy était l'amie qui avait voyagé avec Dawn et Hoffpower l'année précédente. Un agent de l'État rendit visite à Mandy chez elle en Géorgie. Elle lui confirma que Dawn l'avait bien appelé du relais de camionneurs de Dysart. Elle s'était rendue là avec un routier sympathique qui, à l'arrivée au relais, lui avait même donné de l'argent pour qu'elle puisse manger. Mandy déclara que son amie était déçue de ne pas trouver Hoffpower au relais. Elle ne savait pas à qui s'adresser ni où aller. Si elle se rendait en Indiana où sa mère vivait, elle craignait que les autorités ne se mettent à sa recherche.
À partir de la conversation entre Dawn et son ami en Géorgie, le détective Madden et moi-même en avons déduit qu'elle avait sans doute trouvé un camionneur au relais de Dysart. À ce stade-ci, notre meilleure option était de tenter d'identifier qui avait pu s'arrêter là au cours de ces quelques jours. J'ai alors obtenu le mandat d'un grand jury m'autorisant à examiner tous les reçus de vente de ce relais au cours des 4 jours qui encadraient le moment où Dawn avait été vue là pour la dernière fois.
Pendant ce temps, le détective Madden obtint les reçus des 3 autres relais les plus près de l'endroit où le corps de Dawn avait été découvert en Pennsylvanie. Il espérait que la personne qui avait conduit Dawn avait acheté du carburant aux 2 endroits. C'était possible, même si c'était peu probable. La distance entre Bangor et Bellefonte n'est que de 1000 km. Le réservoir à essence d'un poids lourd peut facilement lui permettre de parcourir plus de 2400 km. Même si les chances de Coick et Madden étaient minces, ils commencèrent tout de même la fastidieuse tâche d'examiner les milliers de reçus de carburant un à un.
Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai compilé les reçus du Maine et de la Pennsylvanie et je me suis retrouvé avec 2 listes séparées. Je les ai ensuite comparées ensemble et j'ai remarqué qu'un seul nom se retrouvait sur les 2 listes qui en totalisaient pourtant plusieurs milliers.
Le nom du camionneur était James Robert Cruz. Ce dernier avait acheté du carburant le 22 mars au relais de camionneurs de Dysart, au moment même où Dawn parlait au téléphone à seulement 5 mètres de là. 3 jours plus tard, il avait refait le plein à Milesburg en Pennsylvanie, quelques heures avant la découverte du corps de Dawn dans le même secteur.
C'était capital pour notre enquête. Ce suspect se trouvait à Bangor au même moment que Dawn et il était au centre de la Pennsylvanie, à peu près au moment où son corps a été retrouvé.
Les reçus indiquaient que James Robert Cruz travaillait pour une entreprise de camionnage de l'Ohio. Suite à l'appel de l'agent Coick, le gérant vérifia les achats effectués par carte de crédit. Cruz conduisait le camion numéro 44 et son itinéraire n'était pas en conflit avec les faits entourant le meurtre.
J'ai vérifié ses antécédents criminels pour découvrir que son dossier était plutôt chargé. Lors de son service militaire, il a été jugé coupable de tentative de meurtre par strangulation et il a purgé sa sentence pour ce crime à Fort Leavenworth.
Son dossier de l'armée contenait un autre élément clé.
Son groupe sanguin était A positif, le même que celui de l'individu qui avait laissé du sperme sur le corps de Dawn.
Les enquêteurs semblaient refermer inexorablement le filet autour de leur suspect.
Il ne nous restait plus qu'un seul élément pour tenter de déterminer s'il était responsable de ce meurtre. Nous devions examiner les pneus de son camion.
À la demande de Coick, un agent du FBI de l'Ohio examina les pneus du camion 44 pendant que Cruz était sur la route avec un autre véhicule. Les pneus étaient des Michelin, modèle XD1 à profil bas, un modèle plutôt rare. Au laboratoire d'État de la Pennsylvanie, un expert chercha les caractéristiques communes entre ce pneu et le moulage de l'empreinte prise près du corps de Dawn. Il compara le moulage aux photographies détaillées de son guide de référence. Ils étaient parfaitement identiques. C'était un indice incriminant de plus.
Les pneus étaient les mêmes, ainsi que le groupe sanguin. Nous disposions des reçus.